On va continuer la petite étude dans l'Épître de Jacques. On est rendu au chapitre 3, le verset 1. Le Seigneur a encore des choses à nous apprendre. S'il veut nous donner du discernement pour qu'on puisse connaître ce que lui pense de sa manière de voir les choses. Puis nous, mais on n'a pas le choix. On n'est pas meilleur, on n'est pas plus grand que Dieu. Puis on doit se soumettre. Lui est Dieu, puis nous, on est les créatures. Puis en étant les créatures, on a tout à gagner à garder notre place. Le problème, c'est quand on se pense trop capable, trop bon, puis qu'on se pense au-dessus de la parole, puis là, c'est comme si on veut pas la mettre en pratique, on se pense que c'est pas pour nous. C'est sûr que le sujet, c'est pas pour chicaner personne. Là. Faut pas avoir peur. Je dis ça juste comme... Tout ce qui est écrit dans la parole, faut se dire, faut que je le mette en pratique. Ma vie doit être basée sur ce qui est écrit. Les manières de penser humaines qu'on a aujourd'hui, c'est loin d'être la pensée du Seigneur. Faut laisser ce qui est du monde dehors, puis on s'attache à ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Dans Jacques, au chapitre 3, le verset 1, c'est comme si on change un peu de sujet dans ce passage-là qu'on va voir ce soir. Le titre de cela, c'est le jugement sur ceux qui enseignent des faussetés. Comme par hasard, ça tombe encore dans l'idée des faussetés. Là, c'est pas le sujet qu'on va voir ce soir, c'est pas pour chicaner les faux prophètes. C'est pour, on va vous lire le passage, que Dieu nous met en garde, il met en garde ses enfants des conséquences de prêcher des faussetés. Dans Jacques 3, chapitre 1, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Juste un verset-là ce soir comme étude. Dieu est en train de nous dire qu'il veut pas que tout le monde se mette à enseigner. On va voir qu'il y a une différence dans la Bible sur trois choses qu'on va regarder. La différence entre prêcher, enseigner puis exhorter. Puis, au niveau de l'enseignement, dans ce verset-là, mais il nous donne comme une sévère mise en garde, car ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. Veux, veux pas, quand on se met à être des porte-parole de la parole de Dieu, des fois, il y a des interprétations qu'on peut amener, on pense que les sujets veulent dire telle affaire. Puis, des fois, on peut mettre des gens en erreur. On peut induire des gens en erreur, puis c'est pas léger. Parce que s'il y a des personnes qui on leur communique des choses qui c'est pas biblique, puis qu'eux autres bâtissent leur vie pendant 6 mois, 1 an, 2 ans avec cette idée-là, puis c'est une idée qui est fausse, puis qui déplaît à Dieu, ou peut-être qu'il y en a qui vont bâtir leur vie, toute leur vie sur un mensonge qu'un frère ou un pasteur a enseigné, puis toute leur vie est basée sur un mensonge que Dieu n'aime pas, mais qu'eux autres, ils ont intégré ça à leur vie parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit ça. C'est pas léger. Ça dit, Dieu va juger plus sévèrement ceux qui ont enseigné. Il juge pas ceux qui ont enseigné la vérité, il va juger ceux qui ont enseigné des mensonges. C'est pour ça qu'il est dangereux de commencer à interpréter ce qu'on n'a pas appris comme faux. Si on n'est pas sûr d'un sujet, on est mieux de ne pas en parler que d'expliquer des faussetés. On va regarder ce soir quelle est la différence entre prêcher, enseigner et exhorter. Premièrement, au niveau de prêcher, tous, sans exception, sont appelés à prêcher. Prêcher, c'est pas enseigner. Prêcher, Jésus nous a demandé à tout le monde d'aller prêcher le royaume. Puis le mot prêcher, comme qu'il nous le dit dans Matthieu 17, allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Un autre plan, c'est dans Marc 16, et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire, prêcher? Mais le mot original de grec du mot prêcher, c'est publier, proclamer, crier. T'annonces, c'est un prédicateur, tu prêches. Tu cries tout haut, le royaume de Dieu est arrivé, Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Venez à lui, recevez-les. Ça, là, tout le monde peut le crier. Puis je pense pas qu'on se trompe. Je pense pas que quelqu'un va se tromper quand tu prêches, quand tu proclames, tu cries le salut. Fait que nous sommes appelés, tout le monde, sans se sentir mal, d'aller crier que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Il s'est approché de nous, puis nous on l'a reçu, puis on est rentré dedans. Puis là, le royaume de Dieu veut les atteindre, les gens qui nous entourent. Fait qu'on n'a pas à avoir peur de parler du royaume de Dieu, parler du plan du salut par la foi en Jésus. On n'a pas à avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, là, un prêcheur, un prédicateur, il appelle ça un héros. Pas héros, H-E accent aigu, R-O-S. C'est H-E accent aigu, R-A-U-X. Puis un héros, pour ceux qui ne les connaissent pas, je ne sais pas, vous avez déjà vu ça, un film, où il y avait une grosse armée, puis là, il y a une autre armée qui vient pour les combattre. Là, il y a un gars qui part à cheval, que lui, s'en va rejoindre les autres l'autre bord, puis il s'en va parler à l'autre gang dans le nom de son roi. Mais ça, c'est un héros, A-U-X. Il va au-devant de l'armée, puis il va proclamer, il va crier à tout le monde, ou il va mentionner tout haut ce que le roi veut lui dire, puis qui sont les conditions pour faire la paix, ou les tribus qu'ils ont renversées, ou si ça marche pas, on va lui sauter dessus. Fait que le héros, sa job, c'est le proclamateur, celui qui parle dans le nom du royaume. Fait qu'un prêcheur, c'est un héros de Dieu. Un prédicateur, un prêcheur, comme tout le monde, on est appelé. Vous êtes tous appelés à être des héros de Dieu, puis à aller annoncer, à aller parler dans le nom de votre roi. Le royaume de Dieu s'est approché d'eux, puis on doit aller leur dire, Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés, puis vous avez encore le temps de vous repentir. C'est maintenant, vous avez encore l'occasion de vous repentir, de plier le genou devant la seigneurie de notre roi, parce que notre royaume va descendre bientôt, puis il va prendre le contrôle. Fait qu'ils ont le temps encore de se soumettre au Seigneur. Voyez-vous? Fait qu'un héros, c'est un officier comme héros, puis il proclame à la manière d'un héros, toujours avec dans une formalité, là. La gravité puis l'autorité doit être écoutée puis respectée. C'est que le gars, il parle avec autorité, puis avec... gravité comme quoi que c'est grave, là. On sait pas des faces qu'on est en train de faire. On est en train de leur dire que s'ils acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel, ils vont mourir dans leur péché, puis ils vont être jetés dans les temps de feu. Puis c'est pas parce que Dieu voulait les envoyer là, c'est leur péché qui les envoie là. Puis ils ont une seule manière pour pouvoir être pardonnés, faut qu'ils croient au sacrifice de Jésus. Puis tout ça, là, le publier, proclamer ouvertement quelque chose qui s'est passé, ou proclamer publiquement l'Évangile en ce qui concerne, comme Jean-Baptiste faisait, comme Jésus a fait, comme les apôtres faisaient, tout le monde, les disciples, prêchaient Jésus-Christ. Puis ça, on n'a pas à sentir un jugement ou une crainte, comme le verset qu'on a vu dans Jacques, qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi nous qui se mettent à enseigner, parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Hey, proclamer le salut, c'est pas enseigner. Vous répétez ce que vous savez déjà. Vous répétez ce que vous avez entendu. Vous n'avez pas inventé des nouvelles affaires, là. C'est pas des choses qui vont vous amener au jugement. Tandis que quand on parle d'enseigner, là, c'est un petit peu plus touché, devenir un enseignant et exhorter, ça, c'est suite à un appel de Dieu. Faut comprendre que on s'improvise pas pour être enseignant ou être quelqu'un qui emmène des exhortations. Il faut répondre à un appel de Dieu. On voit ça dans Romains au chapitre 12, le verset 6, ça nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, il dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, puis celui qui exhorte à l'exhortation. Dans ce passage-là, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a tous des dons différents. Pas un don, mais c'est quelque chose qui nous a été donné. C'est donné par qui? Mais donné par le Seigneur. Que ça soit le don d'un don de don spirituel ou un don d'enseignement, c'est Dieu qui donne ça. Là. On s'improvise pas. Puis moi, je vais décider de faire ça. Puis ça nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Qui appelle au ministère? Qui appelle les gens à rentrer dans le ministère? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait un appel. Je sais pas, vous vous rappelez dimanche quand j'ai prêché, c'est comme un maître qui part pour un voyage, il remet l'autorité à ses serviteurs, il donne des tâches à chacun, puis il ordonne au portier de veiller. Bon, le maître décide, puis il distribue. C'est lui qui décide, c'est le maître. Fait que qui est-ce qui va appeler au ministère? C'est le Seigneur. Puis le ministère, ici, on parle de deux ministères, dans ce vers trois ministères. Il y a ceux qui ont le don de prophétie, parce qu'ils sont prophètes. Il y a ceux qui sont appelés à enseigner. Il y a ceux qui exhortent. Chaque personne reçoit un appel de Dieu, puis on doit être à l'endroit où ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, avant de demander un appel à quelqu'un d'être dans être un enseignant, il va commencer par y donner le don. Puis après, le gars, c'est comme quand tu commences à avoir le don d'enseignant, tu commences, c'est comme si tu te mets à lire la Bible, puis là, tu as des révélations. Tu comprends les affaires facilement, puis il y a comme une capacité qui se développe de pouvoir être capable de partager aux autres, parce que même dans le monde, un professeur d'école, tu t'improvises pas professeur d'école, c'est pas n'importe qui peut être professeur d'école. C'est un don, c'est une capacité d'être capable de transmettre les informations de façon à ce que le monde comprenne, ça c'était bien important. Tu peux te penser professeur, puis expliquer des choses, puis le monde comprenne rien de ce que tu dis. T'as-tu vraiment le don? Tu sais, ça prend une certaine capacité, puis c'est pas tout le monde qui a la même qualité ou facilité de s'exprimer. Le don, il y en a qui ont plus de le don d'enseigner qu'un autre. Là, c'est pas une question de se comparer avec un autre, mais quand Dieu donne un don, il veut que tu travailles avec la capacité qu'il t'a donnée. Il donne le don, puis après ça, il t'appelle. Mais tu as besoin d'une formation. Faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Des fois, tu peux aller à l'école biblique. En tout cas, il y a toutes sortes de manières pour apprendre sur Internet, par des logiciels de Bible puis d'enseignement, tout ça. C'est là pour nous former. Tu as une connaissance à aller chercher. Puis, il faut avoir la capacité, après ça, de développer pour emporter les sujets. Mais si quelqu'un n'est pas appelé du Seigneur pour enseigner, puis commence à expliquer des affaires qu'il comprend pas, il risque de mêler les gens, puis risque d'induire du monde en erreur. Puis le Seigneur, il va faire rendre compte à la fin à ceux qui ont enseigné, ils vont être jugés plus sévèrement. Il nous met en garde ces choses-là pour pas qu'on fasse de gaffe, qu'on mette les pieds dans les plats. L'enseignement revient plus à l'idée d'expliquer pour former les gens. Être capable d'enseigner, c'est faut que tu aies reçu le don d'être capable d'expliquer des choses qui semblent compliquées. Puis quand tu as fini ton explication, mais les gens l'ont compris. Si t'arrives à ça, c'est parce que t'as le don. Après ça, c'est juste une question d'aller chercher la connaissance. Mais on est tous appelés à aller chercher de la connaissance de la parole de Dieu. Pas juste ceux qui ont le don. C'est ça qui est arrivé aussi dans certaines églises. Le pasteur, il dit pas aux gens. Fait que les gens, ils vont pas se nourrir, ils s'instruisent pas, ils apprennent pas rien dans la semaine, ils attendent le dimanche, puis ils se fient juste à qu'est-ce que le pasteur a enseigné. Non. Tout le monde doit lire la Bible, tout le monde doit étudier la Bible, tout le monde doit faire un effort d'aller dans une étude biblique, puis d'ajouter toujours des connaissances. Ça sert pour nous aider à être plus en plus conformes à la volonté de Dieu. Mais si vous apercevez que vous avez le don, soyez à l'écoute. Dieu peut vous appeler à ce que vous enseignez. C'est pas mal d'enseigner. C'est de mal enseigner qui est mal. Enseigner des faussetés. Si on sent qu'on a un appel, puis on aime ça parler du Seigneur, puis on aime ça expliquer les choses, on a peut-être l'appel, mais là, allons chercher la formation pour être capable d'expliquer des choses conformes à la parole de Dieu. Quand on parle du mot enseigner, c'est expliquer, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher. C'est aussi prêcher, mais instruire les gens. Le mot enseigner, il est plus au niveau, t'amènes des choses, t'amènes des nouvelles choses, des explications plus profondes. À l'heure prêcher, c'est, tu cries tout haut en parlant que le royaume est arrivé puis que Jésus est mort pour tout le monde. Ça, tous les chrétiens peuvent le faire. Mais expliquer en profondeur les détails sur la parole de Dieu, c'est pas tout le monde qui doit se lancer là-dedans si tu n'as pas reçu les bases, au moins un minimum de bases là, pour pouvoir pas faire de gaffe, pas enseigner de fausses temps par ça. Puis au niveau de l'exhortation, c'est celui qui exhorte, c'est plus au niveau d'encourager et de venir en aide. C'est comme si tu rajoutes pour pouvoir aider. Le mot exhortation dans Louis II, ça a plus le sens consolation, exhortation, assistance, encouragement, instance, demande. Tu vas avoir aussi à prêcher, mais t'exhortes. Le monde a besoin d'être boosté et d'encouragé. Un exhortant, celui qui a le don d'exhorter, il sert de la parole puis il essaie d'encourager le monde avec la parole. Il va pas en détail comme un professeur qui explique de A à Z puis il passe par toutes les étapes, point 1, point 2, point 3. Ça, c'est plus un enseignant, tandis que l'autre, l'exhortateur, il va parler dans le but de booster. Fait qu'un prédicateur, un pasteur qui prêche, ça va y arriver de prêcher. Il va prêcher le salut. C'est une prêche pour le salut. Ça va y arriver d'enseigner. Puis ça va y arriver aussi d'exhorter le peuple. On continue, on persévère jusqu'à la fin. On lâche pas, le Seigneur est avec nous autres. Tous les sujets qui parlent. Fait que un prédicateur, normalement, il touche aux trois. Mais dans l'Église, il peut y avoir d'autres personnes qui ont cet appel-là à apprendre et à développer ces dons-là et à s'impliquer. Mais pour enseigner, il faut pas que ça soit tout le monde, mais tout le monde peut prêcher pour annoncer le message. Et il y en a qui sont appelés aux dons de prophétie, il y en a d'autres qui sont appelés à l'exhortation. Le mot de la définition du dictionnaire pour l'exhortation, c'est appeler à l'aide, supplication, instance, exhorter, avertissement, encouragement, consolation, réconfort. Celui qui exhorte, c'est la même chose que le mot du consolateur, de l'Esprit-Saint, le parakletos, paraclète. Ça veut dire le consolateur. Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. Un autre consolateur, l'esprit de vérité. La job du Saint-Esprit est caractérisée pour être le consolateur. Mais celui qui exhorte, c'est le même mot pour dire que c'est son travail, c'est comme s'il ferait le travail du Saint-Esprit pour encourager le peuple de Dieu. As-tu levé ta main?
Mais je pense que moi, mon ministère avec les femmes, c'est ça, c'est des exhorter, de se motiver ensemble dans nos choses de femmes, à s'approcher
davantage
du Seigneur. C'est ça. C'est ça, c'est l'exhortation que je fais en femme.
C'est ça. C'est ça.
Et des fois, prier ensemble.
C'est ça qui est le but. Puis Dieu en appelle des gens. C'est Dieu qui appelle. Puis il te le met à cœur. Il t'a appelé à faire cette tâche-là. Tu l'as fait. Puis il t'a donné ce qu'il faut pour que tu le fasses. Puis Dieu en appelle d'autres à le faire. Il faut écouter si c'est ça notre appel. Puis il y en a d'autres. Je sais que Dieu il appelle des personnes aux dons de prophétie, puis avec des dons de paroles de connaissance, des paroles de sagesse, de discernement. Dieu appelle des gens dans l'Église à ces tâches-là. Je le sais. Il me l'a montré. Mais ça va venir quand vous allez le vivre, puis vous allez le sentir, puis là vous allez vouloir, puis là, vous allez être baptisé du Saint-Esprit, puis là il va se passer des affaires. Vous êtes tous appelés arrête baptisé du Saint-Esprit, ils m'ont tous appelés à des dons différents, mais il faut aspirer aux dons les meilleurs, puis demander au Seigneur, « Seigneur, tu m'appelles à quoi? Si tu n'as pas encore découvert à quoi tu es appelé, demande-y, Seigneur, prie le Seigneur chez vous, puis demande-y à ce qu'il te le montre, puis sois patient, fais confiance au Seigneur, puis il va te le montrer, il va te guider. » En son temps, ça va se faire, puis tout va se déclencher, puis tu vas être au service de Dieu dans les dons qu'il t'a confiés. Jésus, lui, il avait l'appel d'enseigner et de prêcher. Puis il était aussi un consolateur. Il était appelé un consolateur. Dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Fait que Jésus faisait les trois. Il était consolateur en priant pour les malades, les guérissants, puis les soignants, puis les exhortants, puis les relevants, puis les bénissants. Puis il enseignait aussi, puis il prêchait. Fait qu'il y avait tous les ministères. D'autres, comme aussi l'apôtre Paul, il avait l'appel de prêcher et d'enseigner lui avec, puis il avait les dons de prophétie, la même chose, parce qu'il annonçait des messages prophétiques. Dans Actes 20:20, ça nous dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, puis j'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, il prêchait, il annonçait le plan du salut, puis il enseignait, il dit, que ce soit publiquement ou dans des maisons. Prêcher et enseigner, dans des maisons ou en public, puis il annonçait le salut. Fait que Paul, il avait aussi ces dons-là. Puis c'est pas réservé juste aux apôtres. Il y en a plein de monde dans l'histoire de l'Église qu'il y avait ces dons-là, puis qui ont écrit des livres, puis ils s'occupaient d'Église pour pouvoir prêcher dans leur Église, s'occuper des personnes qui sont là. Dieu donne ces dons-là. On a tous des dons à des capacités différentes, puis on est établi sur un groupe de personnes. C'est Dieu qui décide l'impact ou la grandeur de nos ministères, puis la puissance qu'il y aura, parce que il y en a qu'en plus de prêcher, ils ont des dons spirituels de puissance pour des guérisons, des miracles. Nous, on en voit de temps en temps, mais pas fréquemment comme d'en voir plusieurs par jour. Mais on doit aspirer à cela, de voir la puissance de Dieu accompagner la prédication. Mais on voit des guérisons, comme Huguette qui a été guérie de son épaule hier. Merci Seigneur. Puis on faut aspirer à en voir plus, c'est ça. Puis Dieu, quand il décidera, il le fera en son temps. On est ouvert à toutes les possibilités. Le danger dans l'enseignement, c'est de prêcher des faussetés et de pratiquer le contraire de ce qu'on enseigne. Voyez-vous, c'est là qu'il y a le hic. Quand tu te mets à enseigner, tu vas être jugé plus sévèrement. Mais il y a la question de pas enseigner de fausseté. Puis, là, on regarde des différents passages, comme Paul a dit à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Fait qu'il y a des gens qui enseignent, puis qui enseignent d'autres doctrines. Au lieu de prêcher la sainte doctrine de la parole de Dieu, ils enseignent des faussetés. Donc, tu peux être un pasteur, puis enseigner des faussetés. Faut pas oublier qu'on va être jugé plus sévèrement. C'est important qu'on n'enseigne pas des faussetés. Parce que j'en vois dans l'Apocalypse des gens où dans leur église, ils se font reprocher d'être morts spirituellement, puis d'affirmer le reste qui est en train de mourir. Leur prédication est fausse, puis les gens meurent spirituellement. Ils sont déconnectés d'avec Dieu, puis ils s'en rendent même pas compte, parce que c'est des faussetés qui sont enseignées. Mais il est important de rester biblique, de rester conforme à ce qui est dit. Là, on ne parle pas de nouvelles doctrines, tout est déjà révélé là. Puis là, c'est pour ça que je dis qu'il est important de prêcher la vérité, la sainte doctrine. Mais quand on parle aussi des autres choses qui sont prêchées, qui sont honteuses, comme dans Tite 1.11, il parle de personnages auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Fait qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, qui s'en rendent pas compte, prêchent par cupidité. Les gains honteux, c'est prêcher sur l'argent. Puis que le sujet, t'écoutes le prêche, toutes les prêches prêchent de l'argent, puis ils ont jamais assez d'argent, puis ils mettent des fardeaux sur le peuple de Dieu, puis ils obligent avec des jugements. J'ai déjà... Oui, ça, j'ai déjà entendu ça. Une grosse église de peut-être de 5000 personnes devant lui, puis là, il prêche devant tout le monde. Le Seigneur me met à cœur, vous allez tous me faire un chèque de 100 piastres ce soir. Vous n'avez pas d'argent, vous allez faire votre chèque par la foi. Puis le Seigneur va vous le remettre. Bon, mais ça, lui, il dit que c'est le Seigneur qui a dit ça, mais ça, c'est prêcher pour un gain honteux. C'est antibiblique, c'est contraire à la parole de Dieu. Il prêche par cupidité, puis il faut le fermer la bouche, ceux qui prêchent comme ça. Puis il y en a, c'est pas d'hier, ça se faisait dans le temps de l'apôtre Paul. Il y en a encore aujourd'hui. Romains 2, 21 nous parle encore. Toi donc, qui a, le regardez bien celle-là, c'est au niveau de quelqu'un qui ne met pas en pratique ce qu'il enseigne. Tu enseignes des choses, mais il faut que tu le mettes en pratique. Tu ne dis pas juste, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, il faut que tu mettes en pratique ce que tu enseignes. Un enseignant, il y a un minimum de on va le voir dans un autre passage, que quelqu'un qui prêche la parole doit être quelqu'un qui a un niveau de pratique qui est équivalent à ce que la parole de Dieu enseigne. Tu peux pas vivre dans le péché puis être un enseignant, là, ça marche pas. Mais dans Romains 2, 21, ça nous dit, « Toi donc qui enseigne les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de pas dérober, tu dérobes. » Là, il est en train, dans ce passage-là, de démontrer qu'il y a du monde qui prêche, qui enseigne, mais ils s'enseignent pas eux-mêmes. Puis autant qu'ils disent aux autres de pas voler, mais eux autres même, ils dérobent. Mais ils sont, il dit, c'est pas à cause que tu juges les autres que tu vas t'en sortir, parce que tu vas être jugé de la même façon que tu juges les autres. Puis si tu as frappé fort ces autres, puis tu leur as dit de faire telle affaire, mais il faut que ça soit aussi dans ta vie. Tu peux pas commencer à prêcher juste aux autres de dire faites ça, puis toi tu le fais pas. Parce que là, tu t'attires un jugement sur toi-même. Donc, pour être un enseignant, il faut que tu aies quand même un certain mode de conduite qu'on voit justement dans le prochain passage. Il nous parle du rôle d'un évêque. Puis un évêque, ça veut dire gardien. Un préposé, un surveillant, un superviseur, c'est ça qui est le sens du mot évêque dans la Bible. Il dit, c'est un homme qui est chargé à contrôler ce qui doit être fait par les autres pour voir si tout est fait correctement. C'est un gardien. En tout cas, c'est le rôle d'un évêque, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est un surveillant d'église. Dieu a établi des gens comme évêques. Mais pour être un évêque, il faut que tu aies un certain mode de conduite. On voit ça dans Tite, le chapitre 1, le verset 7 à 9. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » Voyez-vous comment c'est important? Le mode de vie, mais aussi attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, puis afin d'être capable d'enseigner, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Fait que quelqu'un qui a un rôle d'évêque, faut qu'il y ait un mode de vie exemplaire, puis en même temps, faut qu'ils connaissent la Bible. Faut qu'ils savent où ce qui s'en va. T'enseignes. Faut que tu sois capable d'enseigner la sainte doctrine. C'est pour ça que je reviens encore au premier passage qu'on veut étudier aujourd'hui, dans Jacques chapitre 3, le verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ce qui en est là-dedans, c'est que vous êtes tous appelés à prêcher. Gênez-vous pas de prêcher. Allez prêcher. Allez annoncer. Allez crier que Jésus est mort pour le pardon de leurs péchés. Ça, il n'y a aucun problème. Exhortez-vous les uns les autres, la Bible le dit. Fait que exhorter et prêcher, c'est correct. Pour l'enseignement, avancez-vous pas dans des zones où ce que vous n'êtes pas sûr. Vous êtes mieux d'aller consulter quelqu'un que vous pensez qui pourrait avoir des réponses. Puis, afin que vous ne mettiez pas les pieds dans un plat, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous enseigne de veiller sur ce qu'on dit, ce qu'on a à faire, Seigneur. Dans ta parole, tu nous dis de prêcher l'Évangile, tu nous dis aussi de s'exhorter les uns les autres. Mais apprends à chacun, Seigneur, de ne pas s'aventurer dans l'enseignement pour ne pas enseigner des faussetés puis induire d'autres personnes en erreur. Puis pour tous, Seigneur, apprends-nous à mettre en pratique ta parole, qu'on soit des exemples, qu'on n'est pas obligé d'avoir le rôle d'enseignant pour pouvoir être exemplaire. Rends-nous comme les évêques, irréprochables, d'une conduite parfaite, puis que chacun de nous puisse montrer l'exemple. Et je te demande, Seigneur, de susciter, d'appeler d'autres personnes aux dons d'enseignants, puis des dons de prophètes, puis les ministères dans l'Église. Appelle, donne les dons, puis édifie ton Église, fortifie ton Église. Puis envoie des ouvriers aussi pour répandre ta parole dans ce monde. Que l'œuvre puisse s'accomplir et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen.